7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
« 7 milliards de voisins, on est ensemble. »
7 milliards de voisins et de voisines, si vous prenez l'émission en cours de route, soyez les bienvenus. Nous nous intéressons aujourd'hui aux femmes qui créent leur propre entreprise. Certes, elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. Il faut sûrement une bonne dose de confiance en soi pour sauter le pas. C'est ce qu'on disait avant le flash. Les voisines, chefs d'entreprise, petites ou grandes, appelez-nous si vous êtes en train d'écouter l'émission en direct, en première diffusion, au 33 1 84 22 71 71. On aimerait bien savoir quelles sont vos difficultés et puis vos réussites. Et puis, nous discutons de tout cela avec des expertes du sujet. Séverine Leloarne, Virginie Cupi, Pillard et Bouchra Benida Ramouni. Vous publiez à plusieurs, avec d'autres femmes d'ailleurs, femmes et entrepreneurs. C'est possible et vous êtes toutes trois à la fois enseignantes en management et puis pour certaines d'entre vous, entrepreneurs. Alors, vous avez enquêté toutes les trois dans des pays assez différents, le Maroc, les États-Unis, l'Europe du Nord, la France. Dans quel secteur, là je m'adresse à vous Séverine Leloarne, dans quel secteur les femmes choisissent de créer leur entreprise? Il y a une différence avec les hommes ou pas tant que ça aujourd'hui?
Bah, de toute façon, on crée son entreprise dans un domaine qu'on connaît.
Ça, c'est sûr.
Donc, la plupart du temps, en tout cas en Europe du Nord, en France, aux US peut-être un peu moins, la plupart du temps, on crée son secteur dans lequel on a déjà travaillé, ou si on n'a pas travaillé, un secteur dans lequel on se sent à l'aise. Donc, ça peut être une maman qui va créer son entreprise dans le domaine de la décoration, parce qu'elle a déjà travaillé là-dessus, parce qu'elle a expérimenté ce domaine, et parce qu'elle se découvre un don là-dessus, et encouragée. À Grenoble, on connaît une femme qui est comme ça. Et sinon, il y aura des personnes qui, si je suis par exemple docteur en biotechnologie, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine des biotechnologies, fatalement, je vais créer à partir d'une protéine que j'ai découverte.
Virginie Cupillard?
Oui, alors je crois qu'il y a aussi un autre aspect, je rejoins ce que dit Séverine, mais il y a aussi un autre aspect de femmes aujourd'hui qui soit créent sous contrainte parce qu'à un moment donné, elles ont besoin de créer leur emploi. Là, c'est vrai qu'elles ont intérêt à capitaliser sur des compétences qu'elles connaissent déjà, enfin qu'elles possèdent et sur des secteurs qu'elles connaissent. En revanche, il y a aussi des gens qui font des reconversions professionnelles.
Des gens qui sont partis pendant les plans sociaux finalement.
Oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi des gens qui ont eu des expériences difficiles dans un monde du travail qui n'est pas tous les jours simple. Je pense à des gens notamment qui ont fait des burn-out ou qui ont fait des vrais changements de vie à des moments donnés et qui là ont recréé sur la base d'une passion. Je pense à quelqu'un entre autres qui est peintre, qui est thérapeute, qui a eu du coup un parcours très différent alors qu'à l'origine c'est quelqu'un qui sortait d'une école de commerce et qui a travaillé dans le monde de l'industrie, donc vous voyez ça n'a rien à voir, et où là on est plus sur vraiment une motivation de réalisation de soi qui passe par un chemin qui est différent, où il y a tout à reconstruire, tout à créer, tout à inventer, et où là il faut vraiment une foi sans faille et une passion très très forte
et
pour
grande disponibilité d'emploi du temps, ça on va y revenir. Bouchra Benida, vous êtes à Casa Blanca, au Maroc et dans le reste du Maghreb, voire le reste du continent. Quels sont les secteurs que les femmes choisissent en priorité pour créer leur entreprise? Est-ce que les services sont vraiment dominants?
Oui, c'est-à-dire on peut, dans cette région, on observe la prédominance du secteur tertiaire dans la création par les femmes, disons, d'entreprise. Et j'adhère parfaitement à ce que disait Virginie à l'instant même. Il y a aussi le facteur de réalisation de soi qui est très important. Il y a aussi, comme l'a précisé Séverine, l'expérience, la formation. Il y a aussi des fois les conditions qui peuvent créer un déclic de création d'entreprise et donner une idée. Moi, j'ai une maman qui me disait, c'était quand elle a eu son enfant, c'était, il faut dire à cause du baby blues, elle a pensé à monter une crèche qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc,
ah
on
oui.
peut garder les bébés à partir de 3 mois, oui.
Dans quelle
donc
ville, ça, au Maroc?
Les parents,
où ça,
voilà.
Si, à Casablanca,
voilà, si les parents ont envie de sortir dîner, de partir en week-end. Donc, voilà, sa situation de nouvelle maman, son congé de maternité, on fait en sorte qu'elle a une idée, mais qui reste toujours dans les services. Mais voilà, juste pour parler d'idée en soi.
Donc ça, c'est par exemple, c'est une maman qui a monté une crèche comme ça, un peu atypique, à Casablanca?
Oui, à Casablanca, donc c'est qui fonctionne 24 heures sur 24.
Mais par exemple, il n'y a pas beaucoup de femmes, ou voire pas du tout, au Maghreb, qui montent une usine de textile, une unité de production dans le textile, par exemple, ça c'est plutôt le domaine des hommes?
on en a des femmes qui montent dans le secteur du textile, de l'agroalimentaire, aussi de la pharmacie. Mais la prédominance va au secteur des services.
Est-ce qu'il y a aussi, dans les pays en développement, une spécificité forte aussi des projets des femmes? Vous nous parliez par exemple là d'une crèche. Il y a une dominante aussi de projets plutôt à vocation sociale, même si c'est pour faire du business. Bouchera.
Oui, c'est-à-dire que à dominante sociale, ça nous amène à parler de tout ce qui est coopérative et association. Donc des coopératives effectivement qui peuvent se spécialiser dans le textile, dans l'agroalimentaire, et donc ça permet à d'autres femmes d'améliorer leur situation.
Alors dans votre livre, toutes les trois, vous vous attachez aussi à déconstruire parfois des idées reçues, hein. Y a toujours cette question qui se pose: est-ce que les femmes ont moins de goût pour les activités à risque que les hommes? Et du coup, est-ce que ça serait un facteur qui les empêcherait de créer leur entreprise, Virginie Cupillard?
Alors je sais pas si c'est qu'elles ont moins de goût. En tout cas, je crois que culturellement, elles portent encore un héritage qui est lourd. Quand vous regardez bien, moi, ma grand-mère, elle avait pas de chéquier, parce qu'à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque à leur nom. Donc ça fait une cinquantaine d'années que les femmes ont cette opportunité de pouvoir faire des choses que leur grand-mère ne pouvait pas faire. Donc je pense qu'elles sont encore aujourd'hui entravées par ça. Je pense pas que ce soit une notion de goût du risque, parce que très franchement, moi je vois des femmes qui ont créé des structures dans des conditions absolument hallucinantes, en étant seules avec des enfants, en repartant à zéro, en ayant vécu des expériences extrêmement difficiles. Je pense à quelqu'un qui a fait partie des rapatriés de Côte d'Ivoire en l'occurrence. Donc le goût du risque, en tout cas, elle l'avait. Et d'ailleurs, elle nous disait, c'est parce que j'ai cette niaque-là, quelque part, que ce goût du challenge, il m'anime et que j'y vais. Donc, je suis pas sûre que ce soit tellement ça, la difficulté. C'est plus cet héritage, à mon avis, qui les entrave. Et elles ont du coup du mal à se dire, je peux me projeter dans la vie en grand. Ouais. On n'a pas assez de femmes aujourd'hui en France, en tout cas, qui se lancent dans des structures avec plusieurs salariés. On est beaucoup, beaucoup sur de la création.
Oui, c'est ça, c'est tout petit. Ce qu'elles imaginent est toujours
une personne. Oui, tout à fait. Alors peut-être parce qu'elles veulent concilier aussi leur vie privée et leur vie professionnelle à certains moments.
Hein. Séverine Leloharne ?
Oui, Virginie, je te rejoins sur deux points. C'est vrai que la femme aura peut-être pèse entre guillemets à son héritage ou porte son héritage, et elle voudra, c'est pas qu'elle voudra pas le risque, mais la plupart du temps quand on interroge des entrepreneurs, hommes comme femmes d'ailleurs, à chaque fois il y a un mot qui revient, on parle pas du risque, on parle de c'est un jeu. En introduction dans le livre, on parle d'une femme qui elle veut rester dans l'anonymat et qui nous dit mais pour moi c'était un jeu. Et en fait, la notion de jeu, c'est-à-dire que je m'amuse, tout va bien. Alors ça veut dire que c'est un jeu sérieux, certes, mais qui me permet peut-être de me sortir de la panade, qui me permet d'avancer, qui me permet de créer, qui me permet de créer des emplois. Et elle avait créé jusqu'à une centaine d'emplois.
Enfin, ça va si on n'a pas trop investi.
Elle avait quand même beaucoup investi, parce qu'elle avait quand même investi. Si elle perdait, elle perdait beaucoup, beaucoup.
Oui, elle était peut-être très riche au départ.
Non, pas particulièrement.
Une famille derrière elle, non, quand même.
Non, cette femme-là, en quelle je pense, elle a fait un BTS de tourisme. Son papa lui avait prêté 5000 francs à l'époque, donc ce qui revenait à maintenant ça serait 1000 euros, on enlève l'inflation, etc. Ce qui lui a permis de démarrer une activité de service. Elle avait pas d'emploi. Après, c'est simplement une attitude, une posture. Alors c'est vrai qu'après, il faudra avancer.
Alors l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, pour les hommes et pour les femmes. Hein. Quand on veut monter son entreprise, on est bien d'accord. Est-ce que c'est plus difficile, je m'adresse peut-être à vous, Virginie Cupillard, est-ce que c'est plus difficile pour les femmes d'avoir accès à des financements, que ce soit des prêts bancaires, que ce soit de trouver des capital risques, etc.?
Là, en tout cas, les statistiques le montrent, et oui, elles ont plus de difficultés à accéder à des financements. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont aidants, parce que, notamment, il y a eu des créations d'incubateurs au féminin, il y a quand même beaucoup de réseaux qui sont là pour les aider, des business angels au féminin. Mais ça reste, je pense, plus difficile, en tout cas, les retours qu'on a vont dans ce sens-là, oui, tout à fait.
Et pourtant, on dit souvent que les femmes remboursent mieux les prêts bancaires.
Oui, parce qu'elles ont une gestion de mère de famille, en fait. Donc, comme elles gèrent le budget de leur entreprise, comme elles gèrent celui de la maison. Alors, c'est à la fois un atout énorme, parce qu'elles vont pas prendre des risques démesurés, contrairement peut-être à certains hommes qui sont plus risque-tout, entre guillemets. Mais parfois, ça peut aussi les freiner. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que les femmes sont rarement dans une démarche uniquement financière. C'est-à-dire qu'on le voit, par exemple, quand on les forme au commercial, elles sont extrêmement douées pour la relation, elles ont une agilité incroyable, donc là-dessus, elles ont vraiment à capitaliser pour créer des relations durables. En revanche, l'acte de vente, c'est pas simplement « je vends quelque chose et tu me donnes en contrepartie de l'argent ». C'est plus que ça. Donc ça peut être aussi un atout, mais parfois un désavantage également.
Vous nous appelez les voisines et les voisins au 33 84 22 71 71 pour nous faire partager peut-être soit le goût du risque si vous avez créé une entreprise, et là je m'adresse aux femmes. Nous sommes en ligne avec Ariane qui nous appelle de Niamey au Niger. Bonjour Ariane.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir.
Merci.
Alors Ariane, vous avez dit au standard que vous avez créé une ONG.
Tout à fait. Tout à fait, j'ai créé une ONG qui s'appelle Aman Iman, l'eau c'est la vie. Et voilà, je l'ai créée en 2005-2006 et j'appelais pour confirmer que, étant une femme, pour débuter cette ONG, c'était très difficile d'une part d'avoir, de trouver des financements et aussi d'avoir de la crédibilité et surtout par le fait que je travaille. Enfin, l'ONG travaille surtout pour faire des forages d'eau de 200 mètres de profondeur, etc., des grands forages. Mmh. Et donc, c'est dans un domaine d'infrastructure, encore un domaine masculin. Et du coup, quand je demandais des financements et que je parlais de la situation là où je travaille au Niger, c'était pas facile au début de gagner la confiance des gens.
Mmh.
Et je pense que ça, c'était lié un peu parce que je suis une femme, beaucoup parce que je suis une femme, aussi parce que j'ai commencé, j'avais 28 ans.
Ah oui.
Et donc j'étais jeune, j'étais une femme, j'étais pas un monsieur un peu âgé en costard cravate en train de demander des financements. Et effectivement, j'écoutais ce que vous disiez aussi, j'arrivais très bien au niveau à inspirer la compassion pour les gens pour lesquels je travaille, mais quand il s'agissait d'avoir de l'argent, ça c'était tout autre chose. Voilà.
Vous êtes nigérienne, Ariane ?
Non, je suis franco-américaine, mais j'ai grandi dans l'Afrique de l'Ouest et en grande partie au Niger.
D'accord, triple culture.
Voilà.
Et aujourd'hui, votre ONG fonctionne ?
Oui, elle fonctionne et je dirais, bon, pas sans difficulté. Mais on a quand même réussi à donner de l'eau à plus de 100 000 personnes et on donne pas seulement de l'eau, on donne des vivres, on fait un peu de travail au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture. Donc on a aussi grandi au niveau de notre but. Au début, on a commencé que dans l'eau. Et c'est très difficile de trouver des financements pour payer nos salaires, mais on arrive quand même à faire ce travail, ce beau travail.
Restez en ligne avec nous, c'est une belle expérience que vous nous faites partager, Ariane. Séverine Leloirne, qu'est-ce que vous inspire les difficultés que nous raconte Ariane de crédibilité, d'inspirer de la compassion. C'est le mot qu'a employé Ariane, mais au moment de trouver de l'argent, c'est beaucoup plus difficile quand on est une femme.
Bah déjà, merci Ariane pour le témoignage et puis pour nous faire découvrir votre ONG que personnellement je ne connaissais pas. Généralement, je me rends compte que des financeurs ont tendance à avoir des critères. Et ils choisissent la personne, alors ils se disent « Oui, je ne fais pas différence entre les hommes et les femmes. » Ok, soit. Au moins dans le discours. Hein. Et ils ont des critères. Et généralement, le critère, c'est l'expérience. Donc en fait, ce que vous semblez vivre, on peut le vivre également dans d'autres pays, sur l'expérience. Et fatalement, plus on est jeune, moins on a d'expérience, c'est fatal. Mais bizarrement, quand on est senior, il y a un gros problème sur l'entrepreneuriat des seniors. Bizarrement, on a l'âge, on a l'expérience, mais là, pour le coup, on est presque trop vieux. Bon, c'est un autre débat. Mais
ouais, on n'a jamais le bon âge, finalement.
Un peu ça, voilà. Et derrière, il y a la question d'un peu de l'habit fait le moine. C'est-à-dire qu'on inspire confiance parce qu'on a déjà réussi quelque chose, donc on va déjà reprêter. Et donc on prêtera des personnes à qui ont déjà été expérimentées. Et fatalement, la femme, entre guillemets, subit ce double handicap. L'expérience, est-ce qu'il a été prouvé ou pas? Et si vous avez en plus l'âge, là c'est un peu compliqué. Et ça se retrouve dans bon nombre de pays, y compris la France, y compris l'Europe du Nord.
Est-ce que vous avez le sentiment, Ariane, de manager cette ONG? Maintenant, vous êtes combien dans cette ONG?
Bon, on reste très peu au niveau du management. Hein. On est quatre à être vraiment permanents dans l'ONG.
Donc il n'y a pas de notion de hiérarchie, en fait. Hein. Vous êtes une équipe.
on est une équipe. Mmh. Même si on m'appelle patronne, parfois, on n'est plus une équipe, on est plus famille, on va dire.
Vous partagez votre expérience avec d'autres femmes chefs d'entreprise ou qui ont créé des ONG à Niamey, des Nigériennes, là, pour le coup, ou pas?
Bon, c'est vrai que j'ai pas, vu que je travaille pas à Niamey même, j'ai pas beaucoup de rapports avec d'autres ONG parce qu'on travaille dans un endroit où il n'y a pas d'ONG qui travaille, où il y a très peu. Donc j'ai pas trop l'opportunité de partager cette expérience.
Bah écoutez, là c'est le moyen aujourd'hui, peut-être que vous serez contactée. En tout cas, c'est sympa qu'on puisse entendre votre témoignage. Bouchra Benida, vous êtes toujours en ligne avec nous à Casablanca?
Oui, tout à fait, oui.
Que vous inspire le témoignage d'Ariane à Niamey?
Bah écoutez, ce qui m'inspire, c'est que nous sommes toujours sur deux logiques en ce qui concerne les financements. Et je voudrais ajouter aussi, bon, il y a l'aspect financement, il y a aussi l'aspect, situation ou statut matrimonial qui joue énormément. Mmh. Puisque tout à l'heure, vous parliez des investissements dans des secteurs à haut risque. Alors, pour le financement, je parlais donc de logique. Vous avez, bon, des femmes qui arrivent à trouver les financements facilement. Moi, une femme entrepreneur me racontait une fois... concernant la création de son entreprise, donc elle me disait qu'elle avait démarré avec un capital de 5 millions de dirhams, ce qui est assez important. Je lui dis, comment vous avez fait? Elle m'a dit, j'ai organisé un dîner. Vous voyez, donc je dis, elle a organisé un dîner où elle a invité sa famille, sa belle famille. Elle a pu donc, avoir donc les convaincre et constituer son capital. Pour démarrer. Vous avez donc effectivement pour d'autres, bon, c'est le parcours du combattant.
D'ailleurs, vous le disiez au début de votre livre, vous le disiez d'ailleurs tout. Hein, c'est finalement, bon, être entrepreneur, qu'on soit un homme ou une femme, c'est la même chose, mais les chemins pour y parvenir sont tout de même assez différents. Restez avec nous. Merci beaucoup, Ariane, pour votre témoignage, créatrice de l'OME. Oui, bien sûr,
est-ce
Ariane.
Je peux rajouter une petite chose? Ouais. Oui, donc justement, on parlait de comment moi j'ai obtenu les premiers financements. Et je vous avoue que les premières personnes qui ont financé notre travail, c'était des femmes. La première femme, elle a entendu parler des personnes qui voyageaient 50 km par jour pour trouver de l'eau. Elle a donné 20 000 dollars sans poser de questions.
Ah ouais. Voilà. Ouais.
Et maintenant, on travaille avec plus de 50 écoles Montessori aux États-Unis.
Formidable.
Pour trouver des financements.
Merci beaucoup,
donc,
Ariane.
Et donc, c'est vraiment par d'autres biais.
Merci.
Voilà, merci à vous.
Merci de nous avoir téléphoné, en tout cas, pour nous faire partager votre expérience au 33 84 22 71 71. Vous pouvez lui emboîter le pas. Elle nous a appelé pendant le direct. On va parler maintenant du management parce que c'est bien là qu'il y a la différence peut-être la plus marquée entre les hommes et les femmes. Comment les femmes recrutent? Comment dirigent-elles leurs équipes? Comment les motivent-elles? Est-ce qu'il y a des différences entre le Nord et le Sud? Bref, encore beaucoup de choses à découvrir chez 7 milliards de voisins. Vous nous appelez au 33 84 22 71 71.
Oh, can you shy be la bon? Boobies away, Africa, and we're singing the same song. Aduko Mali, Asuna Mali, Asuni Mali, Suno Bom Nandi, Abuko Bom Nandi, Asuna Nandi, Asun Bom Nandi, Sivono Jando. Way Africa, well, the same song we all sing. Abuko Mali, Asina Mali, Asuni Mali, Swana Bonandi, Abuko Bonandi, Asina Nandi, Asun Bonandi, Sivuno Tando. Zimbabwe.
c'est une vraie carte de géographie, elle toute seule. C'est la chanteuse de groupe sud-africain Freshly Ground. Vous nous appelez au 33 1 56 40 21 71 pour nous faire partager vos parcours de femmes entrepreneurs. Vous êtes nettement moins nombreuses que les hommes partout, tout autour de la planète, et ça vaut le coup d'écouter vos histoires. On est en ligne avec Mémé Ndiaye qui nous appelle de Dakar. Bonjour.
Bonjour.
Madame Ndiaye, vous avez monté une entreprise au Sénégal d'élevage de poules pondeuses. C'est bien ce que vous avez dit au Standard ?
J'ai monté une petite entreprise de poules pondeuses. J'ai 3000 sujets.
Ah oui ?
Et je travaille à 50 km de Dakar. Je fais la navette entre Dakar et Boutoukane.
Oui.
J'ai été aidée par mon mari. J'avais les prédispositions. Hein.
Oui, c'est ça. Vous êtes sur la route de Saint-Louis, donc de Thiès et de Saint-Louis. Si vous deviez résumer en quelques mots les principales difficultés pour une femme qui veut créer son entreprise en Afrique subsaharienne.
Oui, les petites difficultés, premièrement, c'est surtout de gérer ta famille. Tu n'as pas fait beaucoup d'études, de gérer ta famille, tes enfants, les relations. Et l'autre difficulté, c'est surtout une femme de travailler avec des hommes, de donner des ordres à des hommes. Tu sais, au Sénégal, ici, c'est les hommes qui commandent en quelque sorte.
Oui, enfin, ça dépend. À l'intérieur du foyer, c'est quelquefois l'inverse. Hein. Alors, comment faites-vous? Alors, quelles sont vos méthodes?
Enfin, non, au début, c'était difficile, très difficile même, mais tu sais, des fois, on se chamaille, des fois, on s'écoute, mais finalement, tout est entré dans l'ordre. C'était les difficultés surtout que j'avais rencontrées.
Et si vous aviez un message à faire passer aux voisines qui nous écoutent, qui aimeraient beaucoup monter leur entreprise, qui sont éduquées, qui ont étudié, qui ont un diplôme?
Oui, là, je dis que c'est avoir beaucoup de courage, surtout.
Et puis, peut-être aussi pas mal d'astuces pour gérer sa vie familiale. Alors, j'aimerais qu'on en parle. Merci beaucoup pour ce témoignage. Hein. Vous avez monté donc votre élevage de 3000 poules pondeuses entre Dakar et Thiès, hein, sur la route côté de Sébi-Côtane. Séverine Cupillard et Séverine Leloirne, ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages de femmes, le problème de la conciliation avec la vie familiale, ça revient pas nécessairement dans les témoignages d'hommes. Séverine ?
Naturellement, alors moi je parle, surtout moi ce qui me fascine dans cet exemple, c'est de voir qu'on a à peu près les mêmes problèmes à des milliers de kilomètres de différence. Mais effectivement, de toute façon en Europe, globalement, parler de sa vie privée, notamment quand on est une femme au travail, c'est un peu un tabou. Pourquoi ? Parce que on a des enfants, c'est notre problème, et c'est comme si on arrivait de toute façon à tout concilier. Et ça paraît soit une évidence, ou soit en tout cas c'est caché. C'est un peu lorsque vous invitez quelqu'un, vous mettez tout dans les placards, c'est tout propre, hein, et absolument on ne voit absolument rien. Un homme, naturellement, là c'est pareil, poids de la tradition aidant, peut-être ne travaillera pas là-dessus, parce que peut-être que c'est sa femme qui gère les enfants, etc. Pierre Bourdieu le disait quand il travaillait notamment sur la domination masculine, donc c'est pas spécialement moi qui le dis. La femme, elle va devoir gérer plusieurs mondes, ses enfants, éventuellement ses amis, éventuellement sa famille et son travail en même temps.
Bien, alors c'est intéressant parce qu'il y a un message qui est posté sur Facebook de Djibrila Abamako, un homme qui nous dit « La femme est considérée comme capable de faire plusieurs tâches simultanément et de façon concordante. J'ai confiance en la femme gérante, mais pour les décisions, elles sont parfois fébriles. » Moi j'aime beaucoup ce mot. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie Cupillard? Fébrile.
Je sais pas si elles sont fébriles. Moi, j'ai pas rencontré nécessairement de femmes fébriles.
Mais attendez, dans le livre, vous dites quand même que les femmes sont moins armées que les hommes face au stress. Vous dites c'est vrai.
Je sais. Alors moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais que souvent les femmes qui créent, en tout cas en France, c'est très vrai, sont beaucoup moins expérimentées que les hommes. Les hommes qui créent en général ont un gros background derrière eux. C'est pas le cas nécessairement des femmes. Donc, ce qui veut dire qu'elles sont beaucoup dans l'expérimentation à plein de niveaux. Ça leur donne aussi une ouverture. Ça veut dire qu'elles vont pas dupliquer des schémas parce qu'elles vont être en train d'inventer de nouvelles choses un peu tout le temps. Alors pour la partie stress, je sais pas si elles la gèrent mieux ou moins bien que les hommes. J'en suis pas du tout convaincue. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elles gèrent plus de choses. D'ailleurs, l'enquête qui a été faite par McKinsey qui s'appelle Women's Matter met bien en évidence qu'aujourd'hui les femmes, elles ont 4h31 de travail domestique par jour, là où les hommes, ils en ont 2h15.
Et ça varie selon les pays. Ouais. Bouchra Ramouni à Casablanca, les nouvelles générations de filles, puisque vous enseignez dans une école de commerce à Casa, et d'ailleurs vous aussi, mesdames, vous êtes à Grenoble enseignante, qu'est-ce qui change avec les une nouvelle génération de filles qui sont d'ailleurs majoritaires dans les écoles de commerce aujourd'hui, plus nombreuses que les garçons?
Ben écoutez, c'est des étudiantes qui ont un penchant pour l'entrepreneuriat, des étudiantes qui font passer leur carrière, leurs ambitions avant la décision de prendre la décision de se marier. Donc je trouve ça important parce que elles comprennent que le mari joue un rôle important. Il peut être un frein comme il peut être
un tremplin.
Voilà, un tremplin, un complice, comme tu peux être, vous voyez, donc, c'est parce que, vous savez, que ce soit dans la décision d'entreprendre aussi bien que le développement et la pérennité de l'entreprise créée.
Bon, il faudra qu'on se retrouve pour parler de ce sujet qui ne cesse d'évoluer, hein, les femmes créatrices d'entreprises. On a jeté quelques pistes de réflexion avec votre livre. Merci beaucoup Séverine Leloirne, Virginie Cupillard et Bouchra Ramoni Benida. Vous publiez avec d'autres femmes un véritable guide pratique, femmes et entrepreneurs, c'est possible. Et c'est édité aux éditions Pearson. Tout est noté, bien sûr, sur la page de l'émission RFI.fr. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les enfants adoptés à l'âge adulte. Que deviennent-ils? Et surtout, quels parents deviennent-ils? Comment élève-t-on ses enfants lorsque l'on ne connaît pratiquement pas ses propres origines? Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.